avenant au contrat de projet État-Région.
On peut pas être contre et pour, alors.
Je suis le rapporteur. Et si vous voulez bien m'écouter, nous avons signé, la ville de Metz avec l'État et la région, un contrat de plan le 1er mars 2007, et lequel contrat de plan a trois axes prioritaires, la compétitivité économique et le développement durable, la compétitivité et l'attractivité du territoire lorrain et la cohésion sociale et territoriale. L'avenant dont il est question aujourd'hui formalise les propositions issues de la procédure de révision à mi-parcours en y intégrant des engagements financiers inscrits au contrat de redynamisation du site de défense de Metz et de son agglomération signé en juin 2010. En d'autres termes, nous sommes obligés de revoir d'une façon assez significative le contrat de plan du fait qu'il y a des possibilités d'abondement grâce au CRSD. Alors, en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, nous avons la possibilité, dans le cadre de l'ISETEC, de la création d'une maison d'accueil international du chercheur qui est destinée à renforcer l'attractivité du campus Messin. Et ce projet qui sera porté par Metz Métropole, hein, il s'agit de l'hôtel Poncelet, qui est situé dans l'espace du Metz des officiers, perpendiculairement à la rue du juge Michel, si vous le voyez, donnera lieu à un investissement global de 8 600 000 euros, dont 800 000 euros apportés par la ville de Metz au titre du bâtiment qu'on est en train d'acquérir auprès de la Défense. En ce qui concerne la base aérienne 128, il est question également d'inscrire 200 000 euros pour les études préliminaires au projet que nous continuons à avoir. En ce qui concerne le transport fluvial, après de sérieuses discussions qui ont pu évoluer dans le cadre fécond du sillon lorrain, nous avons la perspective d'un port multipolaire entre Frouard-Nancy, Metz-Lamax et Thionville-Illange. Et pour cela, la ville de Metz participe à hauteur de 408 000 euros à un projet d'un montant total de 14 148 000 euros, qui est la première tranche de ce projet. S'agissant des équipements culturels, nous avions au programme de Metz Métropole, je dis nous parce que très souvent nous travaillons en bonne intelligence avec Metz Métropole, je dirais même toujours, nous avions un projet de médiathèque à 6 millions, avec un crédit de 6 millions d'euros de l'État pour une médiathèque jouxtant le centre Pompidou. Nous avons négocié durement avec l'État la possibilité de redéployer ces crédits. Il nous a été dit, et je résume, que c'était des crédits qui étaient tellement fléchés que c'était impossible de les redéployer, que tout redéploiement ne pouvait pas s'envisager. Finalement, on a quand même obtenu 1,4 million d'euros au bénéfice de la médiathèque centre socioculturel de la Patrotte et que, par ailleurs, l'État soutiendra d'autres projets de Metz Métropole dans le domaine culturel, en particulier s'agissant du musée et de l'opéra-théâtre, qui a bien besoin de travaux. S'agissant de la salle des musiques actuelles, les travaux de réaménagement de l'arsenal bénéficieront d'un financement de l'État de 800 000 euros en 2012 au titre du volet métropolitain, auxquels s'ajouteront 200 000 euros au titre des crédits hors CPER. Pour Metz Métropole, je l'ai déjà dit, donc le total pour l'Opéra Théâtre et les musées de la Cour d'Or sera financé à hauteur de 1 220 000 euros, dont 500 000 dans le cadre du volet métropolitain. Enfin, au titre des actions du sillon lorrain, qui maintenant, je le rappelle, va être un pôle métropolitain. La ville de Metz a d'ores et déjà présenté plusieurs projets, port de tourisme, études de la SMAC, Nuit Blanche 2010, études des berges de la Moselle, études des accès au port de Metz, qui ont fait l'objet de subventions accordées par l'État et la région Lorraine dans le cadre du volet métropolitain. Et donc, tout cela amène à un document qui est modifié. L'accouchement, si je puis dire, avec tous les partenaires a été un petit peu long, mais finalement, nous avons un bilan assez intéressant d'un remodelage de ce contrat de projet État-Région. Et vous avez d'ailleurs en annexe le plan de financement prévisionnel de la SMAC, puisque c'est l'objet le plus important sur lequel ce contrat de plan s'applique pour nous. Il y a quelques documents en joint et la motion est en conséquence. Y a-t-il des interventions? Alors, il y y en a pas mal. Oh là là, là, là. Madame Colin Austerlet, Monsieur Etner, Madame Zimmermann, Monsieur Thiel, Monsieur Aldrin, Monsieur Lecadir, Monsieur Krosner et Madame Palaise. Alors,
oh là là. Attends, Lecadir, Krosner.
Madame Colin Austerlet, s'il vous plaît.
Maire, ma première réflexion concerne l'étude sur le projet d'école vétérinaire sur le site de la base aérienne 128. Et à ce sujet, je sais combien vous êtes attaché à ce projet, mais je me permettrai de vous dire que si nous sommes tous convaincus de la nécessité de reconversion de ce site et de l'intérêt évident de ce projet, je crois qu'il aurait été certainement beaucoup plus astucieux de ne pas en faire, monsieur le maire, un combat partisan et de ne parler que d'une seule voix avec et en présence des parlementaires de l'agglomération Messine pour défendre ce projet tant auprès du ministre que du président de la République. Madame Zimmermann avait eu, il y a quelques mois, l'occasion de vous en faire la remarque au sein de cette Assemblée. Et je crois que c'est encore une fois la méthode qui pêche, monsieur le maire, et les considérations politiciennes qui prennent le pas sur d'autres considérations bien plus importantes, me semble-t-il. Alors, pour revenir sur cet avenant au contrat de plan État-région, et plus particulièrement sur le volet des équipements culturels et touristiques. Le projet de médiathèque Pompidou étant enterré, 3,6 millions de crédits d'État sont déployés sur d'autres projets culturels. Alors, auront-ils le même impact que celui qu'aurait eu une médiathèque adossée au centre Pompidou? Je n'en suis pas certaine et je suis convaincue que cet abandon est regrettable. Est évoquée la somme, dans vos documents, de 500 000 euros pour la SMAC. Alors, si l'on fait appel à des fonds d'État dans le cadre du contrat de plan État-région, est-ce à dire que ce projet excède le budget initialement prévu? Enfin, je voudrais vous dire que le contrat de plan État-région est là pour financer des projets structurants pour notre ville, pour notre agglomération, des investissements d'avenir, créateurs d'emplois et de richesses. Et s'ils ne sont pas structurants, on peut du moins espérer qu'ils procurent un surcroît d'activité pour nos entreprises locales. Alors, c'est vrai que je suis plus que dubitative sur l'utilisation de fonds d'État pour la nuit blanche, même si je ne critique pas le bien fondé, mais je suis dubitative sur l'utilisation de fonds d'État. Je me demande si c'est un projet structurant pour notre ville, pour notre agglomération, et quelles sont vos attentes par rapport à ça. Alors, monsieur le maire, avec toutes les personnes de qualité qui sont recrutées au sein de votre cabinet, qui réfléchissent, qui se projettent, n'a-t-on pas trouvé de meilleure destination de ces crédits d'État ? Notre département est particulièrement touché par une situation économique alarmante. Metz n'y échappe pas. Presque 10% aujourd'hui de demandeurs d'emploi en Moselle. N'aurait-il pas été alors plus judicieux de financer enfin cette grande étude stratégique de développement économique de l'agglomération Messine tant attendue? Voilà un vrai sujet, un sujet pertinent et plus que d'actualité. Alors je crois qu'il serait urgent, souhaitable en tout cas, que vous nous fassiez connaître les axes de votre politique à ce sujet. Je vous remercie.
Bien, monsieur Etner.
Oui, monsieur le maire. Je serai plus court. Hein. Simplement, je voudrais dire que j'en ai voté beaucoup des contrats État-région et je crois que c'est une bonne chose pour tous les grands projets de notre Lorraine. Nous avons besoin de le financement de plusieurs collectivités de l'État. Et vous avez parlé tout à l'heure des 200 000 pour une étude sur le site de l'ancienne base de Frescati. Et je voudrais vous compter simplement les propos tenus par votre ami le président du Conseil régional lors de sa campagne des élections sénatoriales devant des élus, bon, pour ne pas les citer, ceux de Marly, qui ont évoqué le projet. Un projet, enfin une touche d'une société de montage d'hélicoptères en kit qui serait intéressée éventuellement par le site de Frescati, proche de toutes les grandes infrastructures autoroutières. Alors, le président de la région a eu ses propos qui sont restés à travers la gorge de tous ceux qui l'ont entendu, qui auraient répondu, je ne connais pas ce dossier, mais si c'est de l'aéronautique et que ça ne va pas assembler, je supprime les subventions pour le Métis et pour le centre Pompidou. Alors, les élus sont restés tout quoi, mais donc c'est quand même une information importante et dangereuse. Donc, je crois qu'il faut au contraire, se mettre tous ensemble, les nationaux et locaux, pour essayer de débloquer un peu cette situation, cette suppression d'emplois qui a eu lieu de façon un peu rigide. Et tout le monde va chercher, essaye de trouver des compensations. Et je tiens à féliciter d'ailleurs tous ceux qui vont dans ce sens-là. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais vous dire.
Merci. Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors d'abord, moi, je me félicite de ces avenants. Et je dirais que, si vous voulez, il était plus qu'urgent de l'État, pas pour l'État, disons, de simplement tenir compte d'une situation que Metz n'a pas souhaitée. On va être très clair. Metz n'a absolument pas souhaité la situation dans laquelle elle se trouve. Et je dirais que ces compensations financières ne sont que justes mesures par rapport à tout ce que l'on attend encore aujourd'hui. D'autre part, Monsieur le maire, je souhaiterais vous dire également que la démarche qui a été la nôtre, la démarche commune que nous avons réalisée pour l'école vétérinaire, je tiens à vous en remercier parce que c'est vrai, Madame Colin-Osterlé l'a rappelé, depuis un certain nombre de mois, j'avais souhaité que nous fassions une démarche commune, l'ensemble des parlementaires, les présidents de conseils généraux, conseils régionaux, conseils généraux, je dirais qu'en voyant M. Krosner, je pense également au CES, et les maires. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois qu'il est absolument urgent et nécessaire que nous parlions tous d'une même voix. Et la raison pour laquelle j'avais initié cette démarche, c'est tout simplement parce que, à fur et à mesure que nous avions les uns et les autres des réponses sur cette école vétérinaire, jamais la réponse correspondait à ce que nous attendions les uns et les autres. Et tout le monde nous menait en bateau. Et je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a un front commun, sans aucun doute, on est obligé de nous répondre. Bon, la réponse est arrivée. Et, Monsieur le maire, vous me trouverez toujours à vos côtés si, un moment ou un autre, cette école vétérinaire devait continuer à s'implanter sur le site ou sur un autre site de l'agglomération Messine. Monsieur le maire, ce que je souhaiterais également, c'est que, dans cet avenant, vous avez notamment le paragraphe, alors vous avez fait effectivement l'université, et c'est vrai que c'est un point extrêmement important, en sachant que même si nous avons une université lorraine, je crois que, et M. Loger le sait très bien, il connaît mon point de vue là-dessus, je crois qu'il faut que nous soyons toujours très vigilants. Parce que il ne faut jamais oublier que Metz a toujours été coincé entre Strasbourg et Nancy, et je souhaiterais vivement que, dans l'histoire, peut-être plus aujourd'hui, mais dans l'histoire, oui, et Metz est une université récente. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut que nous continuions à être vigilants et dans tout ce que l'État pourra apporter, dans tous les contrats possibles, toujours être très vigilants. Et je compte sur vous, Monsieur le maire, pour que vous soyez vigilants sur l'apport pour l'université de Metz. Quant aux requalifications des friches militaires, là aussi, je crois que la vigilance s'impose. Oui, les avenants sont là. Oui, l'accompagnement est là. Ce que je souhaiterais dire solennellement aujourd'hui, c'est que le front commun que nous avons fait pour l'école vétérinaire et que nous continuons, parce que je vous dis, je ne l'ai pas abandonné, comme vous, je n'ai pas abandonné cette école vétérinaire, mais le front commun, c'est également quant aux fameux 1500 emplois. Parce que lorsque nous faisons l'addition, aujourd'hui, on en est à 200. Alors, sur 1500, je veux bien un petit peu plus, mais moi, je souhaiterais quand même dire que, notamment, le CIRA national, lorsqu'il se délocalise, excusez-moi, c'est le même personnel, un tiers des effectifs sont déjà à Metz, et ils sont comptabilisés. Alors, moi, j'aimerais bien, et je l'ai demandé à Monsieur Sauvadet, je voudrais qu'on ait des chiffres précis, parce que les uns vous disent 500, les autres 700, etc. Bon, moi, aujourd'hui, je continue à dire que les promesses, c'était 1500, Parce que ce n'est pas comme l'école vétérinaire. L'école vétérinaire, le président de la République ne l'avait pas promis. Il avait dit, si vous, vous me donnez un projet, je l'accompagnerai. Bon, aujourd'hui, on connaît la réponse, et j'en suis pas satisfaite comme vous. Mais au niveau des 1500 emplois, c'est une promesse. Or, comme je l'ai rappelé à maintes reprises, nous sommes à 7 ou 8 mois des élections, c'est la dernière fenêtre de tir. C'est le dernier moment où il ne faut pas caler. Et c'est le dernier moment où l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des élus qui ont une responsabilité doivent garder cette union pour ne pas caler. Parce que lorsque le préfet annonce une venue de nouveau de fonctionnaires, pourquoi il n'annonce pas le chiffre? Si vous voulez, je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux. 1500, ce n'est pas 800. Bon, on m'a toujours appris qu'un chiffre, personne n'avait demandé le chiffre de 1500. Donc aujourd'hui, j'exige 1500. Et je continuerai à me battre jusqu'à ce que nous obtenions ces 1500. Et je sais qu'aujourd'hui, les deux autres parlementaires, plus les sénateurs comme François Grosdidier, m'ont donné l'assurance qu'ils ne caleraient pas non plus. Donc, si vous voulez, je crois, monsieur le maire, c'est que cet avenant est une bonne chose. Il faut saluer cet avenant. Il faut saluer les aides, notamment pour la médiathèque. Et on va continuer sur la médiathèque. Parce que je dirais que les élections sénatoriales ont donné quelques pauses à certaines personnes, mais je peux vous dire que le système est renclenché et que je ne calerai pas non plus sur cette bibliothèque. Parce que je pense que personne, aujourd'hui, dans cette salle, n'est responsable du départ des militaires. Par contre, nous sommes tous aujourd'hui, et notamment peut-être nous plus que vous, monsieur le maire, en devoir de travailler pour que ces 1500 minimum soient là et aider là où on le peut à construire sur notamment les friches militaires, peut-être des zones industrielles. Vous savez, je rêve, c'est peut-être un rêve, je ne suis pas comme Martin Luther King, hein, je vous rassure, mais je rêve un jour d'avoir dans la zone de l'agglomération Messine, et non pas parce qu'on aura rajouté le pôle d'Henry à la zone, à l'agglomération, mais je rêve que sur l'agglomération Messine, sur les terrains qui aujourd'hui attendent, il y ait une zone comme celle du pôle d'Henry où il y ait 12 000 emplois. Voilà, merci monsieur le maire.
Alors, monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, sur cet avenant, quelques mots pour ne pas redire ce qui a déjà été dit, tout en partageant les remarques qui ont été faites précédemment. Donc j'adapte mon intervention en fonction de ce qui vient d'être dit et que je ne veux pas recommencer à dire. J'aurai deux points sur lesquels je voudrais insister. C'est premièrement que je suis un peu comme Nathalie Collin-Osterley quand elle vous dit que je regrette qu'il n'y ait pas assez de vues structurantes en ce qui concerne les projets modificatifs et d'avenir, parce que je crois que ce sont seuls ceux-là qui portent l'emploi de demain. Dans le même esprit, je voudrais dire que je suis moi aussi relativement choqué que dans le cadre d'un contrat de plan de cette nature, on accompagne des dépenses de fonctionnement, quelles qu'en soient les dépenses de fonctionnement, mais qu'on accompagne des dépenses de fonctionnement. Ça me semble tout à fait incongru. Et ce n'est pas de jurisprudence des plans État-Région, je le signale. Jusqu'à présent, on était toujours sur des infrastructures, on n'était pas sur du fonctionnement, quel que puisse être. Ensuite, monsieur le maire, je crois que Jérémy Aldrin développera un petit peu le thème de Metz-Nancy et des universités. Marie-Jo Zimmermann le disait il y a peu de temps, il faut être très vigilant sur l'aspect universitaire. Et je pense que nous pouvons tous être dans le même écho. Parce que lorsque je vois comment vous avez annoncé la première année de médecine à Metz, et que l'on voit que concrètement, pas un seul professeur de Nancy ne vient à Metz, aucun professeur de Nancy ne vient visiter des malades, que tout se fait de part de la vidéo, projection, vidéoconférence, qui est moderne, je n'en disconviens pas. Mais l'intérêt tel que vous l'aviez présenté, du moins c'est comme ça que je l'avais compris, c'était qu'un certain nombre d'étudiants en médecine, d'internes, etc., viennent épauler notre système hospitalier. Et notre système hospitalier public messin est en train de s'appauvrir par rapport au système hospitalier nancéen. Alors, je voudrais aussi dire un mot en ce qui concerne la médiathèque abandonnée. Permettez-moi de vous dire, monsieur le maire, qu'on ne s'y retrouve pas dans ce qui est indiqué là. Parce que 6 millions d'euros pour une médiathèque centrale moderne, telle qu'elle était prévue, préconçue, qui consistait à côté du centre Pompidou, de mettre une médiathèque centrale qui aurait, je dirais, permis à la fois de faire disposer le monde entier de nos richesses, des médiathèques, notamment historiques, avec le nombre de manuscrits que nous avons, etc., et de pouvoir importer par le virtuel, c'est-à-dire par aujourd'hui des écrans tactiles qui vous permettraient de voir au moins les choses qui appartiennent à Metz, les manuscrits messins qui sont à la British, au British Museum ou ailleurs. Voilà un grand projet sur le patrimoine et sur la lecture et sur le multimédia qui aurait, je pense, été facteur levier pour l'emploi, pour le développement économique, etc. Au lieu de ça, on redéploie sur une médiathèque de quartier, quel qu'en soit l'intérêt, mais une médiathèque de quartier, et on redéploie, si vous me permettez, on se fait avoir. Parce que dire qu'on récupère 1 220 000 euros sur l'opéra par rapport à des travaux futurs et qu'il faut faire, c'est juste, mais ils étaient de toute façon prévus, puisque l'opéra théâtre est classé monument historique et qu'il y a obligation de la participation de l'État sur la réfection des monuments historiques. Donc, je veux dire, là encore, le compte n'y est pas. Enfin, permettez-moi aussi de dire une nouvelle fois, puisqu'il y a un volet culturel, que le choix de la SMAC qui a été fait me paraît encore n'être pas un bon choix, parce que cela va générer des coûts extrêmement importants que nous aurions pu éviter si nous avions fait simplement une salle à disposition des Trinitaires, un peu moins loin des Trinitaires, comme on le proposait au plan d'eau, et qui n'était pas la SMAC étant les Trinitaires, avec un équipement d'accompagnement, simplement une salle un peu plus grande, et que là, on se lance dans une opération risquée. Quand on voit aujourd'hui ce que sont les comptes de l'autre canal, de Nancy, inauguré, c'est vrai, en grande pompe, mais où, aujourd'hui, on constate que la fréquentation, comme le volume de l'offre de spectacle, a curieusement, extraordinairement diminué. Et cette décision a été prise, à mon avis, à tort, et sans concertation régionale, avec les scènes qui se trouvent à Famec, avec l'autre canal de Nancy, etc. Et alors même qu'il y a des difficultés sur un certain nombre de structures, nous, on se lance dans cela. Alors, je regrette, monsieur le maire, qu'au terme de ce contrat État-région, on ne retrouve pas quelque chose qui puisse propulser l'activité économique. Et permettez-moi de dire, même si c'est hors de propos, que je trouverais très bien en cette période de crise que la région donne un exemple de bonne gestion en renonçant enfin à la gabegie d'une deuxième gare de TGV à Vendières. Et si on avait pu l'inscrire ici, j'aurais applaudi des deux mains. Parce que non seulement c'est une gabegie financière que de faire une seconde gare de TGV Lorraine, mais en plus elle comporte un risque énorme. C'est qu'un jour, les TGV ne soient plus dans les gares des villes de Nancy et de Metz. Nous sommes, je l'espère, sauvés pour quelques années grâce à l'accord des Luxembourgeois et au financement des Luxembourgeois qui ne permettront pas cela. Et de ce point de vue-là, nous sommes moins fragilisés que Nancy. Mais quand on voit que la SNCF est en train de nous raconter aujourd'hui que la ligne TGV Est n'est pas assez rentable ou qu'elle ne l'est pas, que j'ai toujours entendu mes collègues du Trésor, de l'administration du Trésor, j'entends, administration centrale, prétendre au moment où on a arraché le TGV que celui-ci ne serait jamais rentable, comme si un TGV qui allait vers le cœur de l'Europe pouvait être moins rentable qu'un qui va vers l'Atlantique. Bon, moi, il aura fallu toujours m'expliquer ça. D'autre part, la SNCF fait aujourd'hui des promotions extraordinaires, Paris-Montpellier, Marseille, Lille, tout ce que vous voulez. Je ne trouve jamais sur ce site de promotion Paris-Metz, tout simplement parce que les TGV sont pleins. Donc, il faut faire extrêmement attention au discours qu'on est en train de nous servir et qui est de nature à préparer de mauvaises décisions, je l'estime, et la gare de Vandières dans ce contexte est un mauvais choix. Voilà.
Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, ce point concernant le contrat État de plan région est particulièrement intéressant parce qu'il avait été négocié lors de la précédente mandature et il arrive, concernant ces avenants, à mi-mandat vous concernant. Et je crois qu'il y a deux réflexions qui apparaissent à sa lecture. La première, c'est l'affaiblissement politique de la ville de Metz depuis que vous êtes aux affaires. Et la seconde, c'est de voir également l'absence de Metz dans la réflexion régionale concernant ces grands projets structurants. Alors je vais résumer aussi, puisqu'un certain nombre de choses ont été dites, mais sur l'affaiblissement politique. Vous le dites vous-même, le contrat plan État de région ne répond que partiellement aux attentes. Il y a eu l'exemple qui a été développé de la culture, mais effectivement, Patrick, tu as dit, on s'est fait avoir, mais ça tient aussi de la capacité de négociation et du poids politique que notre ville a au regard de Paris. Je me suis amusé à faire quelque chose de très simple. J'ai regardé toutes les grandes villes de France et j'ai constaté que quasiment tous les maires des villes comparables à Metz sont parlementaires. Pour la simple bonne raison, c'est que ces gens ont compris, ces maires, que c'est à Paris que les dossiers se défendent. Je vous les cite quelques-uns. Lyon, Strasbourg, Dijon, Clermont, Tours ont des sénateurs maires socialistes. Caen, Grenoble, Toulouse, Nantes, Rennes, Rouen, Reims ont des députés socialistes. À droite, on en a un peu moins parce que les élections étaient moins bonnes en 2008, mais on a quand même un sénateur maire UMP à Marseille, à Toulon, des députés maires à Nice, à Aix, à Mulhouse. Ce que je veux dire par là, c'est que par le passé, nous avions également un maire qui était sénateur maire à Metz. Et nous avons même, sous Raymond Mondon, un député maire qui était même président de groupe parlementaire. Donc Metz avait un poids politique et je constate que Metz s'approvit politiquement. Vous n'avez pas été candidat au sénateur le dimanche. Je n'aurais pas voté pour vous, rassurez-vous, mais à la limite, j'aurais préféré que vous le soyez par rapport à votre collègue socialiste pour une ville qui est préfecture de la Moselle et préfecture de la Lorraine. Ça dépend de l'ambition que l'on porte. Même chose pour l'université. On se réjouit dans ce point d'avoir le maintien d'un projet qui est la Maison des chercheurs internationale. Enfin, je regrette. Ce projet était inscrit. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas été lancé plus tôt. Il était prévu de le faire dans l'ancien bâtiment des Beaux-Arts. J'avais proposé de le faire à un autre endroit qui était percutant, à mon avis, c'était dans les locaux de la CEITA. Maintenant, ça change. On le met dans l'hôtel Poncelet, pourquoi pas. Mais on constate surtout un retard. Et on constate plutôt que sur ce dossier, ça, les choses n'ont pas inventé, plutôt que de se réjouir d'un maintien d'un projet. Sur la culture, le compte n'y est pas. Et puis, dans le deuxième aspect, le fait que sur la réflexion régionale, finalement, où est Metz ? On a plutôt le sentiment qu'on subit les choses. Sur l'université, vous avez commencé en disant la création de l'université Lorraine. C'est quelqu'un qui enseigne à Nancy qui va vous le dire. Donc, j'aime particulièrement Nancy et j'aime encore mieux l'université de Nancy. Mais il ne faut pas être dupe et naïf par rapport à cette situation. Si l'université de Lorraine a existé, c'est parce qu'ils avaient besoin des 500 publications des chercheurs mersins pour avoir la taille critique, pour avoir le plan campus. Ni plus, ni moins. Et ce n'est pas parce que les présidents de l'université de Nancy sont philanthropes, qui nous ont donné la première année de médecine. C'est parce qu'ils n'avaient plus la place pour avoir les étudiants de première année. Donc, on peut se gargariser de ces solutions, mais je peux vous dire, pour être toutes les semaines à Nancy, que ce n'est pas comme ça que c'est présenté dans leur esprit. Et regardez attentivement comment se font actuellement les fusions de composantes, je peux vous dire que ce n'est pas triste. Donc, il ne faut pas être naïf vis-à-vis de cette situation, et il ne faut pas subir les événements. Nancy a un poids universitaire qui est plus fort que nous, mais nous avons également des spécificités à faire valoir et je ne les retrouve pas dans ce contrat de plan État-région. Sur la culture, c'est pareil, il y aura un point plus tard sur le regroupement avec un certain nombre d'institutions. Là aussi, on subit les choses. On est prêt à voir un certain nombre de choses partir dans la ville voisine au nom de principes financiers, de bonne gestion, mais il ne faut pas être naïf non plus vis-à-vis de cette situation. Nancy a une boulimie culturelle et leur principe, c'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et c'est quelqu'un encore qui aime beaucoup Nancy qui vous le dit. C'est sur Vandières, Patrick, tu l'as dit, je ne vais pas y revenir. Mais là aussi, on attend du maire de Metz qu'il se positionne. On entend beaucoup le président du conseil régional et ancien sénateur de la Moselle. Mais le maire de Metz, on l'entend un peu moins sur Vandières. Il faudrait clairement dire non pour les raisons évoquées, à savoir les pertes de dessertes possibles entre Metz et Paris, mais surtout parce qu'il me semble qu'il y ait plus urgent concernant le ferroviaire de développer la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Ça, c'est positif et ça concerne une extension des infrastructures de Metz. Pour avoir un axe qui partirait de Luxembourg ou de Metz et qui irait vers le sud, les seuls endroits où nous sommes très mal desservis, Lyon par exemple, faire Metz-Lyon en train est actuellement une une galère, effectivement. Donc, sur des positions structurantes, il faut affirmer, me semble-t-il, plus le poids de la ville de Metz dans sa réflexion. Vendière, ce n'est pas utile. Et à l'inverse, il y a d'autres projets comme celui-ci que je viens d'évoquer. Donc, affaiblissement politique et absence de Metz dans la réflexion régionale dans ce contrat de plan État de région, monsieur le maire, c'est, au-delà de quelques éléments qui peuvent être malgré tout intéressants, ce qui transparaît de ce dossier.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais faire une remarque préliminaire. Je trouve toujours regrettable et dommage d'entendre un certain nombre de choses, notamment quand on fait référence à cette fameuse conférence de presse où, je le dis comme je le pense, si on avait eu des élus messins qui avaient la vision et le volontarisme du maire de Metz actuel, notamment sur ce projet d'école vétérinaire, qui a été le premier à en parler, qui a été le premier à aller le défendre à Paris, on aurait des projets de cette qualité et des dizaines à Metz. La vérité, c'est que malheureusement, on se fait avoir, ça a été dit, à Paris, et si on se fait avoir à Paris, j'ai le sentiment qu'on a des députés messins et que ce n'est pas simplement, comme ça a été dit, de faire le reproche à l'actuelle majorité et au maire de Metz. Je crois que sur ce dossier, la position de la ville et du maire est exemplaire, y compris à cette conférence de presse, et je crois que ça a été rapporté par la presse, y compris à cette conférence de presse où les mots du maire étaient exemplaires, et je trouve dommage qu'on essaye de faire l'amalgame et de dire que la position n'était pas bonne. Le deuxième élément sur l'université en général. Gilbert Krosner en parlerait mieux que moi, mais je crois que sur ces dossiers universitaires, on n'a jamais autant avancé que depuis 3 ans. On n'a jamais autant avancé que depuis 3 ans. On a obtenu l'IRT, deuxième projet dans tout le pays. On a obtenu le plan campus qui a été classé 11e ou 12e sur des dizaines de demandes. On a l'université de Lorraine. Et merci pour le côté naïf. On n'est pas naïf. On sait ce qu'il faut défendre par rapport à ces dossiers-là. Et on sait que la place de Metz, et je crois que c'est la volonté aussi des Nancéens, doit être préservée. Donc, je trouve que ces procès d'intention sur différents sujets, qu'on parle de finances, de grands projets, sont fatigants parce que c'est toujours les mêmes. Et la vérité, c'est par manque de vision de votre part sur l'ensemble de ces projets qui vous pousse à avoir cette posture sur le procès d'intention récurrent à chaque conseil municipal. Ça devient sincèrement fatigant. Sur ce contrat de projet, la vérité, elle est simple. C'est qu'on avait un contrat d'abord qui était maigre. Il n'y avait rien dans ce contrat. Et surtout qui était improvisé sur plusieurs dossiers. J'entends la maison internationale. Pourquoi on n'a pas avancé sur la maison internationale ? Parce que, au lieu d'avoir de vrais projets structurants sur l'enseignement supérieur, comme ça a été le cas dans plusieurs villes, on a simplement dit on valorise le bâtiment de l'ESAM de façon complètement improvisée. Quand on est arrivé à 7 millions et quand on est arrivé à la réalisation concrète, eh bien, l'ESAM ne voulait pas partir et la position de Metz Métropole a évolué. Voilà la vérité. Donc nous, on a trouvé la solution en proposant l'hôtel Poncelet, en faisant une étude sous la direction de Gilbert Krosner, et ce dossier est en marche et il sera enfin réalisé. Donc sur ce contrat de projet, je le répète, on avait un contrat de projet maigre et improvisé. C'est la même improvisation sur la médiathèque. Au lieu de l'inclure au centre Pompidou, on a voulu improviser une médiathèque avec des coûts de fonctionnement et de construction qui auraient été exorbitants. Et donc, ce projet est abandonné, je dirais, par du bon sens, et on a un projet alternatif de médiathèque à la Patrotte. Et donc, je crois sincèrement que, sur cette affaire, nous essayons justement de sauver le peu qu'il y a dans ce contrat, de le sauver et de le valoriser avec une renégociation qui est à la hauteur. Mais malheureusement, oui, je vous le concède, on n'était pas là en 2006 pour négocier un vrai projet, un vrai contrat de projet. On n'était pas là et on avait un contrat de projet qui n'était pas à la hauteur. Et donc aujourd'hui, moi, je salue un certain nombre de décisions correctives dans ce contrat et je pense que ça va dans le bon sens. Et sur l'ensemble des grands projets pour cette ville, moi, ça me fait sourire de dire que Metz n'existe plus. Quand je vois la position de Metz sur l'ensemble des grands débats aujourd'hui sur la métropolisation, sur les projets universitaires, je crois que Metz est plus que jamais visible et existe et a un poids important.
dur d'intervenir après Hassen, mais je suis entièrement d'accord avec lui sur deux points quand même. Le premier point, c'est sur l'école vétérinaire. Tous ceux qui ont assisté à la conférence de presse, je le dis pour Nathalie, à la conférence de presse la semaine dernière, alors tous les participants, tous les intervenants ont salué la dynamique qui a été mise en place par le maire de Metz et le côté rassembleur sur ce projet, parce qu'il y avait quand même des gens de la majorité et de l'opposition qui étaient ensemble sur une tribune pour présenter un projet et pour défendre un projet innovant. Ça, il faut le dire. Et là, non, l'école vétérinaire, j'ai eu encore un témoignage aujourd'hui d'un professeur qui m'a appelé d'Orléans et qui a appris qu'on avait un projet intéressant et qui dit qu'il voulait s'associer sur une thématique de recherche par rapport à ce projet-là. Donc, tout ça pour dire qu'on est en train de bâtir quelque chose. Je ne sais pas si on gagnera sur ce projet d'école vétérinaire, mais comme on est en train de créer une mobilisation, une vraie dynamique autour de ça, et je pense qu'on peut gagner. Deuxième point, l'Université de Lorraine. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, c'était dit par Hassen. Je voudrais juste dire, je suis persuadé aujourd'hui que sans la mise en route de l'Université de Lorraine, qui quand même est une étape copernicienne au niveau de nos relations entre Nancy et Metz, au niveau enseignement supérieur et recherche, et je sais que notre histoire n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui on est en train de construire quelque chose ensemble. C'est difficile, on a des intérêts à défendre qui peuvent être des fois contradictoires avec les intérêts nancéens, mais je dois vous dire qu'en ce moment, on a réunion sur réunion avec le président de l'université, avec le recteur et d'autres acteurs, pour essayer de défendre les intérêts messins, et je pense qu'on le fait très bien. Alors je voudrais dire que sans l'université de Lorraine, sans la dynamique qui a été mise en place par les présidents d'université, jamais on n'aurait eu plan campus. Ça a été dit. Jamais on n'aurait eu l'université, l'institut de recherche technologique. Jamais on l'aurait eu. Jamais on n'aurait eu le projet Lafayette. On avait besoin, pour ces trois projets structurants, d'avoir l'appui des Nancéens, et ça a été le cas. Et je dois dire également, sur le projet d'école vétérinaire, la conférence de presse, on a eu le président du presse, Luc Johann. Le jour-là, les Nancéens n'étaient pas disponibles, mais ils nous soutiennent totalement dans cette démarche. Donc il y a une espèce de dynamique qu'on est en train de créer entre nos deux universités pour aboutir sur quelque chose. Ah, pour revenir sur la révision du contrat de projet État-région, rapidement. Moi, je souligne l'importance du CPER. Alors, quand on dit importance du CPER, qu'est-ce que ça veut dire? Rien que sur l'enseignement supérieur. C'est 38 millions qui vont être injectés au niveau du contrat de projet État-région sur notre territoire. Il y a 5 projets. On parle là d'un projet, c'est le projet de la maison d'accueil international des chercheurs. Il y a 4 autres projets quand même dans cette école. Et c'est des projets structurants, mes amis de l'opposition. Premier projet, deuxième, c'est-à-dire, donc il y a la maison internationale du chercheur. On a l'Institut de l'autonomie, qui est aussi un projet structurant pour notre territoire, qui est en train de se mettre en place à côté de Mercy. On a Solcy. Donc, c'est-à-dire, on a un pôle là, unique sur un pôle universitaire urbain. On est en train d'injecter de l'argent pour en faire réellement une façade sur tout ce qui touche aux sciences de l'homme. Donc, on est en train de faire quelque chose, à mon avis, de structurant pour notre territoire. Autre élément, PM carré. Donc, on oublie de dire, on est en train, grâce à PM carré, cette relation de tout ce qui est recherche sur les matériaux et sur les procédés, on est en train de faire un grand ensemble pour faire quoi? Eh bien, ici, qui a donné l'IRT. Donc, ça montre quand même qu'il y a de la cohérence dans notre stratégie. Et aussi, il y a un complément par rapport à l'Institut Lafayette. Sans le CPER, on n'aurait pas pu faire l'Institut Lafayette parce qu'il y a un complément pour arriver à 23 millions d'euros. Il faut le savoir. Donc, je pense que là, on a quand même 5 projets structurants qui vont donner, à mon avis, dans les 5 prochaines années. Alors, quand je dis 38 millions, si on regarde avec Campus, je fais le calcul, Lafayette, CPER et IRT, c'est 190 millions d'euros qui vont être injectés sur le territoire. Ça, c'est quand même important, ce qui montre un petit peu que, regardez par le passé, on n'a jamais eu, excusez-moi du peu, jamais eu une dynamique aussi forte, autant injecté d'argent dans les 5 prochaines années sur le territoire. Donc, ça montre clairement quand même qu'on est sur une bonne dynamique. Il faut le reconnaître. Nathalie a cité des chiffres du chômage général de l'emploi que je connais très bien. Quand j'ai vu les destructions d'emplois au niveau de la Lorraine par rapport aux autres régions françaises, on est mal. Mais essayons sur des projets comme ça d'avoir suffisamment de cohérence entre nous pour pouvoir les défendre collectivement. Sinon, qu'est-ce que ça donne au niveau national quand on nous écoute? Il y a la réalité. Essayons de travailler sur cette réalité. Je termine par rapport au CPER. Il y a un élément moi, qui me semble extrêmement important, c'est de dire que c'est une révision. Ça veut dire que si on ne dépense pas l'argent, les 38 millions qui sont pris sur le territoire, on les perdra. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement que le plus rapidement possible, on ait une vraie dynamique de réalisation pour ne pas passer à côté de ces réalisations structurantes, encore une fois, pour notre territoire. Merci.
Bravo. Oh, bravo. Bravo les deux. Les deux.
Merci, Monsieur Krosner. Je voudrais apporter quelques petites précisions de détails et après m'exprimer sur le fond. Quelques précisions de détails, bien entendu. S'agissant des aides de l'État pour la nuit blanche, il ne s'agit que d'aides à l'investissement, puisque c'est la règle. Nous investissons aussi du matériel pour la nuit blanche. Simplement, l'État a compris l'intérêt et l'importance de la nuit blanche et il a voulu s'y associer. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais l'investissement, les petites sommes qui sont inscrites ici par l'État, sont le signe que la nuit blanche de Metz est reconnue au plus haut niveau. C'est passé, et oui, c'est passé à la DATAR. Et permettez-moi de vous dire que le journal de demain de 20h, de TF1, parlera de la nuit blanche, et que vous avez une pleine page aujourd'hui dans Télérama sur la nuit blanche de Metz. C'est comme ça, vous qui cherchez de la visibilité, essayez de comprendre que cette opération est une opération remarquable et qu'on commence à nous envier, on vient voir ce qui se passe. On en reparlera tout à l'heure avec William Schuman. Je voudrais dire également sur la médiathèque. Mon regret de l'intervention de Patrick Thiel, pour qui j'ai beaucoup d'estime, même de l'amitié, mais qui m'étonne vraiment. J'ai plaidé en son temps pour qu'on mette la médiathèque du Centre Pompidou-Metz dans le Centre Pompidou-Metz. Et s'il y a quelqu'un qui a soutenu le projet du Centre Pompidou en insistant sur le fait que la médiathèque était importante, c'est bien moi. Et quand j'ai vu M. Donnedieu de Vabre venir faire un discours ici, à l'époque ministre de la Culture, et expliquer qu'il n'avait qu'un seul regret, c'est qu'on n'ait pas mis une médiathèque dedans, j'ai vu mon prédécesseur un peu pâlir. Nous nous sommes regardés. Je vous entends maintenant, monsieur Thiel, regretter la médiathèque à côté. Attention, maintenant c'est 23 millions. 23 millions. Eh bien, je vous le dis tout net, vous connaissez bien les chiffres, par contre, vous. Et vous connaissez bien la comptabilité publique, vous. Eh bien, ce n'est pas dans nos moyens en ce moment. Et nous avons par ailleurs essayer au maximum, et c'est là l'intérêt du point d'aujourd'hui, de recycler ces crédits qui étaient fléchés, grandes bibliothèques, de les recycler sur la médiathèque qui va servir pour tout le nord de l'agglomération quand même, qui sera un très très bel outil. Donc si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas trop s'apesantir sur le passé parce que c'est compliqué. Et puis on peut toujours renvoyer aux uns et aux autres ces déclarations, mais là-dessus je me sens très très à l'aise. Mais maintenant, le Centre Pompidou fonctionne comme il est. On en a 1 million de visiteurs et on arrive à le gérer comme il est là. Cessons, je pense, d'utiliser ce type de débat. Monsieur Ettner, je vous dirais, avec l'amitié que je vous porte aussi, que le mieux pour les déclarations de Monsieur Masseret, c'est de lui demander. Hein? Voilà. C'est comme ça que ça marche le mieux parce que je ne suis pas son porte-parole et vous n'êtes pas le porte-parole des élus de Marly. J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec le maire de Marly. Et croyez-moi, je sais où, que faire. Maintenant, le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes visibles? Je vais vous donner quelques informations. J'étais hier au Forum des villes où je suis intervenu, à l'Hôtel de Ville de Paris, devant des centaines et des centaines de personnes, parce que le maire de Metz, on l'invite à intervenir. Et, ben oui, puisqu'il paraît que je suis invisible, mais bien sûr que c'est normal. Et j'ai rencontré énormément de collègues et de confrères. Eh bien, je vais vous donner des éléments qui m'ont fait plaisir. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je me vois contraint de le faire compte tenu de tout ce que j'ai entendu. J'ai vu, par exemple, le maire de Rennes me parler de leur projet, maintenant un peu lointain, de faire un pôle métropolitain avec Nantes. Et de m'expliquer, ah, à Nancy et à Metz, ils ont été assez malins pour s'organiser au plan universitaire, et ils ont émargé au plan campus. Et nous, à Nantes et à Rennes, on l'a raté. J'ai entendu ça hier. Premier exemple. Autre exemple. les universités de Lorraine. On me parle en permanence de notre rapidité à saisir les opportunités qui nous sont proposées. Partout, j'entends parler de l'intelligence des Lorrains, je dis bien des Lorrains, c'est tout le monde, de l'intelligence des Lorrains qui ont su s'organiser. Après ça, il y a les détails de la mise en œuvre. On a eu quelques débats, et parfois quelques débats un petit peu délicats, parce qu'on rentre effectivement dans les détails. Et le diable peut se nicher dans les détails, c'est vrai. Il peut se cacher dans les détails. Mais globalement, les présidents d'universités encore en place, le futur président de l'université Lorraine, supposé, on en a un connu, en tout cas comme candidat, et les responsables politiques ont bien compris qu'on ne faisait pas un bon mariage si chacun n'y trouvait pas son intérêt. Et nous avons compris en écoutant à la fois Hassen Lekadir et notre ami Gilbert Krosner, nous avons compris que depuis 3 ans, c'est la success story, figurez-vous. Ça n'arrête pas. Nous avons gagné des réussites au niveau visibilité nationale et internationale exceptionnelle, parce que nous sommes ensemble. Parce que nous sommes ensemble. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, on m'a dit « Ah, le maire de Nancy, jamais lui parler, jamais aller le voir. » Et j'ai eu des conseils de partout, tout le monde, et c'était unanime. Moi, je vais vous dire, on ne peut discuter correctement qu'avec son ennemi pour faire la paix. Et moi, je n'ai pas d'ennemi en Lorraine. Nous avons réussi à faire cesser le mauvais œil qui consistait à dire que nous nous battons avec la ville voisine et vu de Paris, vu d'ailleurs, tant que vous vous battrez, on va s'occuper d'autre chose. C'était ça la réalité. Et ces batailles stériles, ces batailles qui nous ont délétères, qui ont affaibli aussi bien la ville de Nancy que la ville de Metz, eh bien, elles sont terminées. Ça ne veut pas dire que tout soit simple. Tout est compliqué, même dans les ménages. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais de temps en temps, on s'explique. Il n'empêche que c'est comme ça que ça marche. Parce que nous avons les intérêts communs de toute la Lorraine. Et croyez bien que, vu de l'extérieur, nous attirons un regard étonné et même admiratif sur nos performances. Effectivement, ça a été fait. Le projet Campus, je vais m'arrêter 2 minutes sur la première année de médecine. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas osé le mettre dans mon programme municipal. Parce que c'était sacré. On ne touche pas à la médecine, comme il y a 30 ans ou 20 ans, le droit à Metz, pas question. Et là, nous avons 264 étudiants, premier choix, qui sont installés ici dans des conditions qui sont excellentes et qui sont traités exactement comme les étudiants nancéens, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils travaillent pour les amphis. Deux grands amphis, ils travaillent devant un écran et ils ont des TD à 30 avec des personnes en chair et en os et ce sont des personnes parfaitement qualifiées. Et ils auront, et je m'en suis assuré auprès du professeur finance, ils auront exactement les mêmes assistances et aides par les médecins étudiants qui viendront leur faire les répétitions. J'ajoute que parmi tous les bénéfices qui ont été dits, il y en a un qui n'a pas encore été donné. C'est celui du contrat hospitalier de territoire entre le CHR et le CHSU. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Elle est passée inaperçue. Le CHR, pour la première fois, a signé une convention de recherche avec l'université Nancy 1, parce que pour l'instant, c'est toujours l'université Nancy 1, Henri Poincaré. Elle a été associée à la convention que doit signer le CHU avec l'université, puisque sinon il n'y a pas de recherche universitaire. Eh bien, nous sommes dans le coup. Jusqu'à présent, c'était défendu, interdit. Et nous avons maintenant, d'ores et déjà, des professeurs de médecine ou des hospitaliers qui travaillent et qui font de la recherche ici à Metz. Si bien que, je voudrais m'arrêter là, l'IRT, Lafayette, et même l'école vétérinaire. Hier à Paris, à l'Assemblée des maires des grandes villes de France, j'ai rencontré André Rossineau, comme ça nous arrive souvent. Et André Rossineau m'a dit, j'ai suivi la conférence de presse sur l'école vétérinaire. Eh bien, je vais t'aider. Nous allons ensemble.
C'est honteux.
Nous allons ensemble tout faire pour faire réussir la Lorraine avec cette école vétérinaire. Et figurez-vous, je le crois, parce que effectivement, jusqu'à présent, alors qu'il y avait un projet d'école vétérinaire il y a encore 5-6 ans à Nancy, honnêtement, le maire de Nancy nous a aidés. Il faut savoir aussi reconnaître les faits. Et croyez-moi, les procès d'intention vis-à-vis d'autrui, notamment dans des domaines aussi importants que cela, peuvent nous emmener à des impasses. C'est comme ça qu'on fait des mauvaises batailles. Moi, j'ai apprécié à la fois la lettre de Mme Zimmermann et la conférence de presse commune, même s'il y a toujours un peu de chicaillat avec des gens qui sont en sénatorial. Globalement, c'était la première fois, à ma connaissance, depuis que je suis dans la vie publique, que je voyais toutes les forces, les chambres de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, le conseil régional, le conseil général, tous les parlementaires. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement gauche-droite, c'est même les ennemis à l'intérieur de la droite. C'est quand même quelque chose, hein, qui étaient là ensemble, avec le maire de Metz, pour pousser un projet qui était encouragé par une partie de l'administration et qui a été refusé par une autre partie de l'administration. Et donc, la bataille n'est pas finie, je l'ai dit. Maintenant, encore un mot. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien sur le plan du développement économique, parce qu'en particulier le port. En 2007, il n'était pas question de port sur la Moselle. Là, vous avez un projet qui tient la route, un projet unificateur avec les trois villes de Thionville, de Metz et de Nancy qui travaillent ensemble avec un seul projet, un seul port. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire aussi. Et ça, c'est également à mettre au bénéfice de l'esprit du Sillon Lorrain, qui apporte énormément à notre travail. Enfin, la salle des musiques actuelles. On me dit qu'elle est trop chère, j'ai entendu ça. Elle était inscrite pour 10 millions d'euros pour l'équipe précédente. Alors, croyez-moi, c'est vraiment du pareil au même. En réalité, on l'a changé de place. Mais là, attendez. Il s'agit simplement là de la continuité après un changement de majorité. On n'a absolument pas inventé un nouveau concept, on l'a simplement changé de place. Et puis après ça, on a travaillé dessus parce que le projet n'était pas encore élaboré. Donc je conclurai pour dire que je suis très content de ce débat. Ce débat montre que nous avons tous des progrès à faire dans la suspicion vis-à-vis de l'autre en Lorraine. Tous des progrès à faire. Et nous avons aussi des progrès à faire dans notre confiance les uns par rapport aux autres. Je le dis ici avec force, on ne peut travailler avec des partenaires que dans la confiance. Après ça, s'il y a rupture, on peut s'expliquer, même éventuellement se disputer. Mais au préalable, la confiance. On est sûr que si on organise la défiance, on est certain de couler tous. Je le résume. En deux mots, nous sommes une petite université, mais Nancy n'est pas la grande université que certains peuvent croire. Et pour apparaître dans le classement de Shanghai, pour apparaître dans les classements nationaux, pour réussir à décrocher tout ce que M. Krosner nous a expliqué, et nous, c'est parce que nous sommes ensemble que nous avons réussi, et donc c'était gagnant-gagnant. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'il faut continuer, en tout cas, c'est comme ça que cette majorité continuera. Voilà, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Unanimité. Ah, pardon. Abstention. Des deux côtés, tout le monde? Docteur, je ne vous ai pas vu. Vous abstenez aussi? Madame Zimmermann? Ah, vous abstenez aussi. Monsieur Etner aussi. Très bien. Alors, tout le monde s'abstient dans l'opposition. Madame Zimmermann, vous pouvez faire une explication de vote. Je vous sens un peu dubitative, mais ça ne fait rien.